La loi choisit toujours son camp en fonction des modalités exécutives. La moralité et les finasseries juridiques ont peu de choses à voir avec elle dès lors que la seule véritable question qui se pose est « Qui tient le manche du fouet ?» Débat du Conseil du Bene Gesserit, numéro d'archive XOX 232. Dès que Tarazza et sa suite eurent quitté Gameux, Teg s'attela à ses nouvelles tâches. L'organisation interne de la citadelle devait être entièrement revue. Il s'agissait de mettre le Gola hors de portée des griffes de Shvangyu. Ordre de Tarazza.
Elle peut regarder tant qu'elle voudra, mais défense de toucher.
Malgré les contraintes de son travail, Teg se prenait de temps à autre à regarder en direction de l'espace, en proie à une vague inquiétude. Le sauvetage de Tarazza à bord du vaisseau de la guilde et les étranges révélations d'Odrad n'entraient dans aucune configuration de données qu'il pouvait créer. Les dépendances, les bûches maîtresses. Il était présentement assis dans son bureau devant la projection d'un planning de travail où il y avait des modifications d'équipe à approuver. Durant quelques instants, il s'était senti perdu, incapable de situer l'heure ou même la date où il se trouvait. Il lui avait fallu un moment pour recouvrer ses esprits. C'était le milieu de la matinée. Tarazza et sa suite étaient repartis depuis 2 jours. Il se retrouvait seul. Oui, Patrine l'avait remplacé pour la journée auprès de Duncan, pour lui permettre de se consacrer à ses tâches de commandement. Le bureau où il travaillait lui paraissait tout d'un coup étranger. Pourtant, chaque élément pris séparément lui était familier. Sa console de données personnelles, sa veste d'uniforme soigneusement posée sur le dossier d'une chaise à côté de lui. Il essaya de se plonger dans le mode Mentat et rencontra de la résistance dans son propre esprit. Un phénomène qu'il n'avait plus connu depuis l'époque de sa formation. Une formation si lointaine. À L2, Tarazza et Odrad avaient fait en sorte de lui faire revivre une sorte de formation personnelle. Ou plutôt d'auto-formation. Comme par hasard, sa mémoire évoqua alors une conversation qu'il avait eue longtemps auparavant avec Tarazza. Comme tout cela lui paraissait familier, détaché de la réalité présente. Il était pris entièrement au piège de ses souvenirs. Tarazza et lui étaient épuisés après avoir pris les décisions et accompli les actions nécessaires pour éviter des affrontements sanglants à l'occasion de ce que l'on devait appeler l'incident de Barandico. Rien d'autre à présent qu'un simple hoquet de l'histoire, mais à l'époque, cela avait requis toutes leurs énergies conjuguées. Une fois la trêve signée, Tarazza l'avait invité dans un petit salon privé à bord du non-vaisseau où il se trouvait. Elle lui avait parlé de manière détendue, louant sa sagacité dans la façon dont il avait su voir les faiblesses de l'ennemi qui avait permis d'imposer le compromis. Il n'avait pas pris le moindre repos depuis près de 30 heures, et Teg était heureux de pouvoir enfin s'asseoir, tandis que Tarazza programmait son resto-bar individuel. 2 grands verres de liquide brun crémeux apparurent bientôt dans le distributeur. Teg reconnut l'odeur au moment où elle lui tendit son verre. C'était un énergisant rapide, le genre d'anka que les sœurs du Bene Gesserit n'avaient pas l'habitude de partager avec des étrangers. Mais Tarazza ne le considérait plus comme un étranger. La tête penchée en arrière, Teg avait bu une longue gorgée de cette boisson, le regard fixé sur le plafond abondamment décoré du petit salon. Ce non-vaisseau était un modèle archaïque, conçu à une époque où la décoration intérieure était plus recherchée. Partout, il y avait des frises et des panneaux gravés de figures baroques. Le goût du liquide brun fortement épicé de mélange avait fait faire à la mémoire de Teg un bond en arrière dans son enfance. Ma mère me préparait une boisson semblable chaque fois qu'elle me trouvait exténué, dit-il en contemplant le verre qu'il tenait à la main. Déjà, il sentait en lui les effets apaisants du liquide. Tarazza était allé s'asseoir avec son verre dans un canisiège qui faisait face à Teg. C'était une grosse masse pelucheuse et animée qui s'adaptait à la forme de son corps avec l'aisance d'une longue habitude. Pour Teg, elle avait avancé un fauteuil plus traditionnel en tapisserie verte, mais elle vit son regard se porter à la dérobée sur le canisiège et lui sourit.
« Les goûts et les couleurs diffèrent, Miles, » fit-elle en soupirant entre 2 gorgées. « Eh bien, l'épreuve a été rude, mais c'est du bon travail, bien qu'il y ait eu des moments où ça a failli mal tourner. » Teg se sentait touché par son attitude détendue. Il n'y avait là nulle affectation, nul masque destiné à les séparer et à définir leur rôle respectif au sein de la hiérarchie du Bene Gesserit. Taratza voulait être simplement amicale avec lui, sans qu'il entre dans ses intentions le moindre calcul séducteur. Tout était exactement conforme aux apparences, comme on pouvait le dire à l'occasion de chaque rencontre avec une révérende mère. En une joyeuse illumination, Teg avait compris qu'il était devenu expert dans l'art de lire ce que ressentait Alma Mavis Taratza, même lorsqu'elle choisissait de revêtir l'un de ses masques.
« Votre mère vous a enseigné bien plus que ce qui lui avait été demandé, » reprit Taratza. « Une femme avisée, mais une hérétique de plus. C'est tout ce que notre programme génétique semble capable de produire ces temps-ci. »«
Hérétique ?» avait répété Miles Teg, vaguement dépité.
« C'est une plaisanterie que les sœurs aiment échanger en privé. Nous sommes censés obéir aux ordres d'une mère supérieure avec la plus entière dévotion. Et c'est ce que nous faisons. Excepté quand nous ne sommes pas d'accord, bien sûr. »
Teg sourit et but une longue gorgée de son énergisant.
« C'est drôle, » dit Taratza. « Mais pendant que se déroulait le petit affrontement serré de tout à l'heure, je me suis aperçu que j'avais devant vous les mêmes réactions qu'avec une de mes sœurs. »
Teg sentait le liquide lui réchauffer l'estomac. Il lui laissait une sensation piquante dans les narines. Il posa son verre vide sur une petite table et parla sans cesser de le regarder.
« Ma fille aînée,
ce doit être Dimela. Vous auriez dû la laisser venir à nous, Miles. »«
La décision n'est pas venue de moi. »«
Mais il aurait suffi d'un mot. »
Taratza haussa les épaules.
« Enfin, c'est du passé. Que vouliez-vous me dire à propos de Dimela ?»«
Elle trouve que, bien souvent, je ressemble trop à l'une d'entre vous. »«
Trop ?»«
Elle m'est aveuglément loyale, mère supérieure. Elle ne comprend pas vraiment la relation qu'il y a entre nous. »«
Et quelle est cette relation ?»
Vous commandez et j'obéis.
Taratza l'observait par-dessus le rebord de son verre. Après l'avoir posé, elle murmura.
C'est vrai. Vous n'avez jamais réellement été un hérétique, Miles. Peut-être. Un jour.
Il parla rapidement, désireux de détourner Taratza de telles idées.
Dimela pense qu'un long usage du mélange, dans de nombreux cas, rend les gens semblables à vous.
Vraiment? Ne vous semble-t-il pas étrange, Miles, qu'une potion gériatrique puisse avoir autant d'effets secondaires ?
Cela ne me paraît nullement étrange.
Je crois comprendre votre point de vue,
dit-elle en achevant de vider son verre et en le mettant de côté.
Je songeais plutôt à la manière dont une augmentation sensible de la longévité a induit chez certaines personnes, et particulièrement chez vous, Miles, une connaissance plus profonde de la nature humaine.
En vivant plus longtemps, on a l'occasion d'observer davantage.
Je ne pense pas que ce soit aussi simple. Certains n'observent jamais rien. Ils se contentent de subir l'existence avec une sorte d'insistance passive, et ils résistent avec un dépit rageur à tout ce qui pourrait les tirer de leur fausse sérénité.
Je n'ai jamais été capable d'équilibrer correctement le bilan de l'épice,
dit-il en faisant allusion au processus courant d'exploitation des données par les Mentat. Taratza hocha la tête. Visiblement, elle avait le même problème.
Nous autres du Bene Gesserit, nous avons tendance à être plus polarisés que les Mentat, dit-elle. Nous utilisons des techniques pour nous sortir de là, mais le mal récidive.
Nos ancêtres ont eu ce problème pendant longtemps.
Avant l'épice, c'était différent.
Mais ils vivaient si peu longtemps.
50, 100 ans au plus. Cela nous paraît court, mais...
Est-ce qu'ils remplissaient davantage les années qu'ils avaient?
Oh! Avec frénésie, parfois.
Il comprit qu'elle puisait ses renseignements dans sa mémoire seconde. Ce n'était pas la première fois qu'il avait accès, par personne interposée, à cette source d'ancien savoir. Sa mère avait déjà agi ainsi devant lui à l'occasion, mais toujours pour lui prodiguer une leçon. Était-ce ce que faisait Taratza en ce moment? Voulait-elle lui apprendre quelque chose?
« Le mélange est un monstre à plusieurs bras, »
dit-elle. « Vous arrive-t-il de regretter qu'il ait été découvert ?»
Le Bene Gesserit n'existerait pas sans lui.
Ni la guilde.
Mais il n'y aurait pas eu non plus de tyran, ni de Muad Dib. L'épice reprend d'une main ce qu'elle donne avec les autres.
Et laquelle de ses mains renferme ce que nous désirons? Cela n'a-t-il pas toujours été la question?
Vous êtes quelqu'un d'étrange, vous savez cela, Miles? Les Mentat s'adonnent rarement à la philosophie. Je pense que c'est l'un de vos points forts. Vous possédez à un degré suprême la capacité de douter.
Il haussa les épaules. Le tour que prenait cette conversation commençait à être gênant pour lui.
« Je vois que cela ne vous amuse pas, » dit Aratza.
« Mais cramponnez-vous quand même à vos doutes. Le doute est nécessaire aux philosophes. »
C'est ce que les Ensuni nous affirment.
Tous les mystiques sont d'accord sur ce point, Miles. Ne sous-estimez jamais les pouvoirs du doute. Ils sont très persuasifs. Le Estori tient le doute et la certitude dans une seule main.
Réellement surpris, Teg demanda, « Les révérendes mères pratiquent les rites Ensuni ?» Il n'avait jamais jusque-là soupçonné une telle chose.
« Une seule fois dans notre vie, » dit-elle. « Nous accédons à une forme absolue, exaltée de Estori, qui concerne chacune de nos cellules. »
« L'agonie de l'épice. »
« J'étais sûr que votre mère vous en avait parlé, mais je vois qu'elle ne vous a pas expliqué le rapport avec le Zensuni. »
Teg déglutit la gorge lourde. Fascinant. Elle lui ouvrait de nouvelles perspectives sur le Bene Gesserit. La changeait la nature entière de ses concepts, y compris l'image de sa propre mère. Les sœurs du Bene Gesserit reculaient vers des limbes où il ne pourrait jamais les suivre. Elles pouvaient le considérer à l'occasion comme un camarade, mais jamais il ne serait admis dans l'intimité de leur cercle. Il pouvait faire semblant, sans plus. Jamais il ne serait comme Muad Dib ou le tyran.
« La préscience, » dit Aratza.
Ces mots dévièrent son attention. Elle avait détourné la conversation sans la détourner.
« C'est bien à Muad Dib que je pensais, » dit-il.
« Vous croyez qu'il avait prédit l'avenir ? C'est ce que l'on enseigne au Mentat. Votre voix est chargée de doutes, Miles. A-t-il prédit ou a-t-il créé ? La préscience peut être mortelle. Les gens qui sollicitent des oracles ne veulent en réalité savoir que le prix de la fourrure de baleine l'an prochain ou d'autres choses aussi triviales. Personne n'a envie que sa vie privée lui soit prédite instant par instant.
Le plaisir de la surprise.
Exactement. Si l'on pouvait posséder une telle connaissance, la vie deviendrait insupportablement ennuyeuse.
Vous croyez que l'existence de Muad Dib était ennuyeuse ?
Celle du tyran également. On a l'impression que leur vie entière a été consacrée à essayer de briser des chaînes qu'ils avaient eux-mêmes mises en place.
Pourtant, ils croyaient.
N'oubliez pas votre doute de philosophe, Miles. Méfiez-vous. L'esprit de celui qui croit est un esprit qui stagne. Il ne se développe pas vers l'extérieur, dans un univers infini.
Teg resta un long moment sans répondre. Il ressentait maintenant la fatigue que la boisson énergisante avait chassée de ses préoccupations immédiates. Il ressentait aussi la manière dont ses pensées étaient troublées par l'intrusion de nouveaux concepts. C'était des choses qui, lui avait-on enseigné, risquaient d'affaiblir Amentat. Pourtant, il se sentait fortifié par elle. « Elle est en train de m'apprendre quelque chose, » se disait-il. « Il y a une leçon à tirer de tout cela. » Comme projeté au centre de son attention de Mentat en lettres de feu éclatantes, l'admonition Zensuni que tous les Mentat recevaient dès le début de leur formation lui revint en mémoire. Par votre croyance aux singularités granulaires, vous niez tout mouvement, évolutif aussi bien que dévolutif. La croyance a pour effet de figer un univers granulaire et d'assurer sa persistance. Rien ne peut plus être autorisé à changer, car votre univers figé disparaîtrait alors. Mais si vous ne bougez pas, l'univers a son mouvement propre. Il évolue au-delà de vous et finit par ne plus vous être accessible.
Le plus curieux, dit Aratza, en s'immisçant dans cette rêverie qu'elle avait créée, c'est que les savants ixiens sont incapables de voir à quel point leur univers est dominé par leurs propres croyances.
Teg continuait de la regarder dans un silence réceptif.
Les croyances ixiennes, reprit la mère supérieure, sont entièrement soumises à leurs choix relatifs à leur façon d'observer leur univers. Leur univers n'a pas de comportement propre, ils se conforment au type d'expérience qu'ils ont choisi eux-mêmes.
En sursautant, Teg sortit de sa rêverie intérieure. Il se trouvait non pas devant Aratza, mais dans sa citadelle de gameux, installée dans le vieux fauteuil familier de son bureau. Un rapide coup d'œil autour de lui lui montra que rien n'avait bougé. Il n'avait passé que quelques minutes dans cet état d'âme, et son bureau ne lui donnait plus cette sensation d'étrangeté. Il se plongea pour en ressortir aussitôt dans le mode Mentat. Il était restauré. Le goût et l'odeur de la boisson que lui avait donnée Aratza ce jour-là était encore sur sa langue et dans ses narines. En un éclair, le Mentat qui était en lui pouvait faire revivre toute la scène. La lumière tamisée des brilleurs,
le contact du fauteuil qu'il avait occupé, le son de leur voix, tout était là, soigneusement rangé dans sa mémoire, à l'abri du temps. L'évocation de ce vieux souvenir avait donné naissance à un univers magique où ses capacités étaient amplifiées au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Aucun atome n'existait dans cet univers magique, uniquement fait d'ondes et d'inquiétants mouvements. Il lui fallait, pour s'y maintenir, rejeter toutes les barrières nées de la croyance et de la compréhension. Cet univers était transparent. Le regard le traversait sans y trouver le moindre écran sur lequel projeter ses formes. Cet univers magique le réduisait à un noyau d'imagination active où ses propres capacités créatrices d'image constituaient l'unique écran où une projection quelconque pouvait se fixer. J'y suis en même temps celui qui interprète et est interprété. Le bureau où se trouvait Teg ne cessait de vaciller à la limite de sa réalité sensorielle. Il sentait son esprit conscient réduit à un noyau d'expression, et pourtant ce noyau remplissait son univers. Il était ouvert à l'infini. « Taratsa m'a fait cela délibérément », se dit-il. « Elle m'a amplifié. » Il se sentait au bord d'un abîme de peur. Il se rendait compte que sa fille, Audrad, avait puisé à ses pouvoirs pour créer le manifeste des Atréides que lui avait demandé Taratsa. Et ses propres pouvoirs de Mentat étaient submergés par cette trame plus vaste. Taratsa exigeait de lui une terrible contribution. La nécessité d'une telle chose le stimulait et l'effrayait tout à la fois. Cela pouvait très bien sonner le glas du Bene Gesserit.